Radio Zone 61, la radio des lycéens.
Radio Zone 61. Radio Zone 61, la radio des lycéens.
C'est bientôt l'heure de manger, alors on va vous laisser, les gourmets juniors, vous ouvrir l'appétit avec leurs recettes appétissantes.
Les gourmets juniors. Ensemble, on se régale.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Zone 61. Nous sommes les Gourmets Juniors et c'est Axel qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'émission qui est basée sur la gastronomie étrangère ou française. Tout d'abord, avec Gabriel et Chivan, on commence par parler de la gastronomie française.
Bonjour, nous allons vous parler de la gastronomie française puis des plus grands chefs français. Pour les plats typiques et traditionnels français, plusieurs plats sont connus, comme la blanquette de veau, le gratin dauphinois, le bœuf bourguignon, la quiche lorraine, la fondue bourguignonne, le hachis parmentier, la choucroute, le foie gras, la croziflette, mais aussi la ratatouille.
Après avoir mangé l'un de ces plats, il sera coutume en France de continuer avec du fromage et du vin. Les cinq fromages préférés des Français sont le camembert, qui est fabriqué à base de lait de vache. Ensuite, le chèvre, qui, comme son nom l'indique, est fabriqué à base de lait de chèvre. Pour continuer, le brebis basque, à base de lait de brebis. Puis, le comté, à base de lait de vache. Et pour finir, l'emmental, qui lui aussi est à base de lait de vache.
Un bon morceau de fromage s'accompagne d'un bon vin à consommer avec modération. Évidemment. Des vins rouges comme le Bordeaux ou le Bourgogne, aux vins blancs comme le Sancerre ou le Vouvray. Il y en a pour tous les goûts. Les vins rosés, quant à eux, offrent une alternative rafraîchissante, notamment en Provence. En France, le secteur de la restauration emploie plus de 500 000 personnes, dont des chefs talentueux, plus ou moins reconnus. Nous allons donc vous présenter les 5 plus grands chefs cuisiniers français.
Tout d'abord, Joël Robuchon, qui est reconnu à travers le monde entier. Ceci dit, il a rendu son tablier en 2018, mais avait 30 étoiles de guide Michelin à son actif.
Ensuite, Paul Bocuse, qui est connu comme l'un des plus grands chefs du XXe siècle. Il est décédé en 2018 à l'âge de 91 ans. Il avait 2 étoiles Michelin et a obtenu le titre de cuisinier du siècle en 1989. Pour continuer, Pierre Gagnaire, dont Paul Bocuse a été le mentor. Il détient 3 étoiles et a été décerné en 2015 le plus grand chef étoilé du monde par le magazine Le Chef.
Puis Alain Ducasse, il a débuté sa carrière aux côtés de Michel Gérard et Gaston Lenôtre. Il détient 3 étoiles au guide Michelin. Il a reçu en 2009 la Légion d'honneur de la main de Jacques Chirac. Durant la même année, il lance son école de cuisine. À l'heure d'aujourd'hui, il est à la tête de 20 établissements.
Pour finir, Alain Passard, né en 1956, c'est le plus jeune chef à avoir obtenu 2 étoiles au guide Michelin en 1982 à l'âge de 26 ans. Il reprend les cuisines de l'Arche Trast qu'il baptise l'Arpège. Il y gagne sa 3e étoile en 1996. Les spécialités de son unique établissement sont les légumes. Il réussit à transformer ses plats en œuvres d'art permettant de manger des aliments frais et exquis. On poursuit sur la battle avec Mitro, Chivan, Gabriel et moi-même.
Pour ma part, un de mes plats préférés français est la quiche lorraine. C'est une variante de quiche, une tarte salée de la cuisine lorraine et de la cuisine française, à base de pâte brisée ou pâte feuilletée, de lardons et de migaine qui est un mélange d'œufs et de crème fraîche. C'est simple et rapide à faire et de plus, tous les ingrédients qui constituent la quiche sont bons séparément, alors mélangés, ils sont encore meilleurs.
Personnellement, pour moi, mon plat préféré français, c'est la galette de sarrasin. Pour vous présenter rapidement le plat, c'est une crêpe de couleur noire à base de farine de sarrasin, contenant du jambon avec des œufs, des oignons, de la crème et des œufs sur le plat, et un œuf sur le plat. Mais elle a aussi plusieurs variantes. Elle peut être sucrée, comme la galette de sarrasin aux pommes ou la galette de sarrasin caramélisée. Je trouve que son goût est exquis, mais je la préfère salée parce que j'ai toujours préféré le salé au sucré.
Pour moi, un de mes plats préférés français est la croziflette, une alternative de la tartiflette, un plat d'origine savoyarde composé de crozet, de lardons, d'oignons, de crème fraîche et de fromage. C'est mon plat préféré parce que je trouve que c'est un bon plat chaud qui peut être partagé à plusieurs, notamment en hiver, et parce que j'aime beaucoup le fromage. Maintenant, Dmitro va choisir lequel de ces 3 plats lui donne le plus envie.
Bah, personnellement, je préfère les plats de Gabriel. Elle dit que c'est simple, c'est rapide à faire et ça doit goûter très bien, je pense.
Voilà la chronique des plats étrangers avec Chivan, Gabriel et Dmitro.
Nous allons vous raconter l'histoire de trois plats étrangers. Je commence avec l'histoire des nouilles ramen japonaises. L'histoire remonte en Chine, là où les nouilles elles-mêmes ont été inventées il y a plus de 4000 ans. Ce plat aurait émergé entre le 7e et le 9e siècle avant de se répandre au Japon et de subir une transformation. En 1858, le Japon a ouvert ses frontières après avoir déclaré la fin de l'ère des samouraïs. Le véritable tournant a eu lieu en 1910 lorsque le premier restaurant de ramen ouvre. Introduit au Japon au XXe siècle tel que nous les connaissons aujourd'hui, ces nouilles ont influencé les Japonais grâce aux immigrants chinois qui ont apporté avec eux leurs recettes de nouilles et de bouillon. Arrivé au pays, le ramen a évolué en devenant une véritable institution culinaire ainsi qu'en créant plusieurs styles de ramen. De la Chine ancienne jusqu'au Japon moderne, ces nouilles étaient fabriquées à l'origine à partir de farine de blé et de sel. Souvent séchées pour être conservées au fil du temps, ces nouilles étaient étirées à la main. Ce plat est devenu populaire dans les rues de Tokyo et qui ont rapidement conquis le cœur des Japonais. Nous continuons avec un plat portugais sous le nom de pastel de nata qui veut dire tartelette à la crème.
Les pastéis de nata sont des pâtisseries traditionnelles portugaises, également connues sous le nom de pastéis de Belém. Leur histoire remonte au début du 19e siècle lorsque des moines du monastère des Hiéronymites à Lisbonne ont commencé à les fabriquer et à les vendre dans une petite boutique proche du monastère pour subvenir à leurs besoins. Celle-ci est depuis 1837 la seule à vendre les pastéis de Belém, recette originale des pastéis de nata vendue à travers le reste du pays. Ces délicieuses petites tartelettes sont composées d'une pâte feuilletée croustillante remplie de crème aux œufs, de sucre, de lait et de farine. Elles sont ensuite saupoudrées de cannelle et de sucre en poudre avant d'être servies tièdes. La recette originale est restée secrète, les maîtres pâtissiers sont les seuls à les connaître. Au fil du temps, les pastéis de nata sont devenus une icône de la cuisine portugaise et sont appréciés dans le monde entier. Ils font partie des 50 meilleurs mets au monde. Aujourd'hui, ces petites merveilles sucrées sont disponibles dans de nombreuses pâtisseries portugaises et sont l'une des spécialités les plus appréciées du pays, que ce soit à Lisbonne, à Porto ou ailleurs au Portugal. Les pastéis de nata sont un incontournable pour tous les gourmands en quête de saveurs traditionnelles. Toutefois, seuls ceux confectionnés par la Fábrica do Pastéis de Belém peuvent porter la dénomination originale Pastéis de Belém, car elle est seule à connaître la recette secrète originaire du monastère qui apporte aux délicieuses tartelettes le goût unique de la pâtisserie d'autrefois. Les clients sont donc nombreux à se rassembler à la Fábrica do Pastéis de Belém, ce qui explique l'attente parfois longue pour être servie, pouvant aller de quelques minutes à 3 heures. Pour continuer, je vais laisser la parole à Dmitro qui va nous présenter une pâtisserie ukrainienne.
Bonjour les auditeurs de Radio Zone 61. Je m'appelle Dmitro et je vais vous parler de la carte de visite de la ville de Lviv dans le domaine de la confiserie, à savoir le cheesecake de Lviv. Je vais vous raconter l'histoire de l'origine de ce plat et également vous raconter la recette de ce dessert unique. Cependant, on sait avec certitude qu'il est devenu populaire dans les années 80 et 90 grâce à la cuisinière ukrainienne Daria Svek. Elle a écrit sa recette dans son livre qui se vendait très bien à l'époque. Cependant, on pense qu'en fait, de nombreuses femmes au foyer galicien préparant un cheesecake de Lviv inventent l'apparition de la recette de Daria Svek. L'une des versions quand on commençait à cuisiner un dessert spécial est associée à Pâques. Les instructions pour préparer le cheesecake de Lviv auront pu être transformées à partir d'une recette de Caillé Pasque, qui a une méthode de préparation assez similaire. C'est pendant les vacances de Pâques qui est apparue la recette classique du cheesecake de Lviv. Après tout, les hôtesses voulant surprendre leurs invités avec quelque chose d'inhabituel. Comment est née l'idée de verser du chocolat sur le cheesecake reste un mystère. Cela a probablement été influencé par la particularité de Lviv en tant que ville du café et du chocolat. Les cuisiniers voulant se donner au cheesecake de Lviv quelques caractéristiques intéressantes. Donc le chocolat, autrefois cher, est devenu une excellente décoration pour les desserts emblématiques de Lviv. Concernant les variantes des recettes, vous pouvez compter plus de 30 recettes différentes pour les cheesecakes de Lviv. Ce dessert est devenu si célèbre que chaque café de Lviv propose un cheesecake selon sa propre recette et n'y ajoutant de nouveaux ingrédients intéressants. Je vous suggère d'essayer de préparer une recette classique du cheesecake de Lviv. Cela nécessite les ingrédients suivants. 1 kg de fromage cottage, 100 g de beurre, 5 œufs, 70 g de sucre, 30 g de crème fraîche, 20 g de fécule de maïs, les zestes d'un citron ou d'une orange, les raisins secs, du chocolat pour recouvrir les desserts et des flacons de noix de coco si désir. Utilisez un mélangeur pour broyer les fromages cottage en une masse homogène et émaille afin qu'il n'y ait pas de grains. Ajoutez ensuite les sucres, le beurre fondu, les œufs, les crèmes fraîches, les zestes et enfin la fécule. Mélangez le tout à basse vitesse du mixeur. Après cela, ajoutez les raisins secs. Versez le mélange fini dans une moule et recouvrez-les de papier sulfurisé. Cuire le cheesecake pendant 50 à 60 minutes à une température de 180 degrés. Versez le chocolat noir sur le dessert déjà cuit et refroidi et saupoudrez des noix de coco. Le cheesecake de l'huile selon cette recette s'avère assez tendre et aromatique. De plus, le dessert n'est pas difficile à préparer et tout le monde pourra presque certainement le préparer du premier coup. Bon appétit.
Merci à vous. On a donc pu en savoir plus sur les ramen japonais, sur les pastéis de nata et sur le cheesecake de Lviv. Pour préparer toutes ces bonnes pâtisseries, il faut des professionnels. Nous sommes donc allés à la rencontre de Kevin, pâtissier à Flair, qui a accepté de répondre à nos questions. On l'écoute.
Alors, pour la première question, qu'est-ce qui vous plaît dans le métier de pâtissier ?
Eh ben, faire créer, que ce soit que ça plaise aux gens.
Depuis combien de temps pratiquez-vous votre métier ?
Actuellement un an, mais j'ai fait un CAP en deux ans.
Quel est votre parcours pour en arriver là ?
Du coup, j'ai fait un CAP pâtisserie. Et puis après, j'ai été dans d'autres métiers, mais après je suis revenu en pâtisserie.
Avez-vous eu un autre travail avant ou avez-vous toujours eu envie d'être pâtissier ?
Du coup, oui, j'ai eu un autre travail avant dans le tourisme. Et après, la pâtisserie me plaisait, donc du coup, je suis revenu à la pâtisserie.
Quels seraient pour vous les pour et les contre de ce métier ?
Eh ben, les pour, c'est de faire plaisir aux gens. Et se lever le matin, c'est un pour. Et puis après, les contre, j'en vois pas personnellement.
Pourriez-vous nous décrire à quoi ressemble une journée type en tant que pâtissier ?
Et du coup, on arrive à 6h. On prépare toute la viennoiserie, après la pâtisserie. Et puis après, nous, on est une boulangerie assez particulière. Donc, on fait sandwich, pizza, tout ça.
Ok, merci.
Comment gérez-vous les quantités de pâtisserie pour la journée ?
Eh ben ça c'est vu avec toute l'équipe. Du coup on a un planning, on a un cadencier pour bien gérer et pas faire de trop de pertes.
Avez-vous souvent des pertes en fin de journée ? Si oui, qu'en faites-vous ?
Eh ben oui, ça nous arrive. Et du coup on voit à la fin de la journée le nombre et on essaye de dispatcher et le reste eh ben on est obligé de le jeter malheureusement.
Merci beaucoup Kevin. Pour avoir pris le temps de répondre à nos questions et qu'on puisse en savoir plus sur votre métier. Merci à vous Kevin de nous avoir donné faim et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et voilà, notre émission est donc terminée. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons vous avoir donné faim. Au revoir et à bientôt sur Radio Zone 61.
Les gourmets juniors. Ensemble, on se régale.